Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà.
Ok, Ben.
Parlez bien proche du micro.
On est bien proche du micro. Moi, c'est Ben.
Ben.
Et moi, je m'appelle Flavien. Mais moi, j'ai pas de son. Moi, je suis la vicose du groupe. Nickel. Si, merde.
Eh bien, vous avez bien respecté ce que je vous ai demandé, merci.
Eh bien, aucun problème, on a reçu toute la...
Il ferme bien sa gueule.
Ouais. Ok, ça fait plaisir. Ah, là, je crois qu'on m'entend, là.
Ouais, on m'entend.
Là, c'est bon, on t'entend mieux. On t'entend mieux et... Ah, le boss arrive. Le boss arrive.
Salut à tous, c'est Ismaël. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Groover Tips. Aujourd'hui, on va s'intéresser au-dessous des featuring qui sont plus nombreux dans le rap que dans n'importe quel autre genre musical. Alors, spoiler pour commencer, à la fin de ce podcast, nous n'aurons toujours pas éclairci les mystères du feat entre Rof et Karim Benzema et nous n'aurons toujours aucune explication pour justifier le duo entre Mokobé du 113 et Ariel Dombal, car ça existe, les amis. En revanche, on va essayer d'y voir plus clair sur la manière dont s'organisent les collabs dans le rap et les musiques urbaines. Comment les feats sont rémunérés, comment ça se passe en termes de droits et quel équilibre y a-t-il entre démarche artistique et stratégie commerciale. Donc on va parler création et business comme d'hab, et pour cette conversation, il est temps que je vous dévoile mes featuring du jour. Je commence avec le côté artiste, c'est le groupe Bolide qui est avec nous. Bolide, c'est un trio très créatif, un chanteur et deux producteurs qui naviguent entre R&B, pop et rap. On aura un live à la fin de cette émission, mais petit extrait dès maintenant de Bolide pour vous donner une idée de leur talent. Ça s'appelle Alpha et ça arrive tout de suite.
Depuis tout petit, je le sais, il faut porter le poids. Depuis tout petit, je le fais, j'ai pas eu le choix, non. Manière ou d'une autre, toujours draguer des filles mais pas montrer mes failles. Aller cacher les larmes, surtout pas, j'avais honte, j'avais peur, tu t'en ailles.
C'était Bolide avec le morceau Alpha. Aujourd'hui, on a deux des membres de Bolide avec nous. On a le chanteur et auteur Sam et un des compositeurs Joe. Comment ça va les gars?
Ça va très bien et toi?
Ben, ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous.
Avec plaisir.
Sorti à la rentrée 2020 un EP qui s'appelle Cœur Vagabond. Et avant ça, début 2020, vous aviez proposé un EP de collaboration, Boys and Girls volume 1.
Donc
vous allez pouvoir nous donner votre point de vue et votre expérience de jeune artiste sur le sujet des featuring. Face à vous, des professionnels. Des professionnels pour cet épisode, c'est Ben et Flav, qui sont managers, managers d'artistes, notamment de Daryl, Fomo et Alvin Chris, si je dis pas de bêtises.
Exact.
Yes. C'est bon. Alvin Chris et Fomo qu'on avait déjà reçus d'ailleurs dans Groover Tips. Et évidemment, en tant que manager, vous connaissez bien tous les enjeux autour des featuring. Comment ça va les gars?
Bah écoute, comme un lundi.
Comme un lundi, et on est totalement mardi.
Pardon.
C'est pour ça.
Merci d'avoir répondu présent en tout cas à l'invitation. Vous allez nous livrer votre expertise sur le sujet. Et j'ai envie de commencer avec Bolide. Vous avez donc proposé, comme je l'ai dit, un EP de collaboration qui est arrivé assez tôt dans votre carrière. Comment vous est venue l'idée de sortir ce projet-là de feat à ce moment-là de votre développement?
Bah en fait, ça s'est fait un peu naturellement. On avait lancé un truc qui s'appelait des free time, qui était un peu comme des freestyles, mais qu'on balançait entre nos sorties, nos vraies sorties de singles. Et on le mettait juste sur Insta à la base. Et il y avait pas mal de gens qui nous ont demandé, notamment quand on a sorti celui avec Kitsune Kendra, où est-ce qu'ils pouvaient l'écouter et de les mettre sur les plateformes. Du coup, on y a réfléchi un peu. Et à la base, c'était censé sortir encore plus tôt d'ailleurs. C'était censé sortir en septembre. Mais finalement, on l'a fait en janvier. Et voilà, c'était vraiment dans l'idée de faire un truc spontané qui rend disponible la musique sur les plateformes.
Ok, il n'y avait pas de stratégie forcément calculée de se dire on fait des feats donc on élargit aussi notre audience en collaborant avec des gens?
Si, forcément. Dans l'idée surtout, on débarquait un peu sur cette scène-là. On avait envie de rencontrer les gens qui la composaient vraiment et en fait nous on vient de la pop.
Ouais.
Et dans la pop ça se fait beaucoup moins les featuring, c'est vachement moins
naturel.
Naturel, ouais. Et du coup on est arrivé sur cette scène et on s'est dit merci Joseph.
Toujours là pour toi.
Il me back en live.
Je suis back.
On s'est dit mais en fait c'est trop triste de pas faire ça et du coup on a proposé à des gens un peu naturellement sur Insta ou des gens qu'on connaissait avant comme Oscar Hemsch avec qui on a énormément bossé. Et après, c'est fait super naturellement, super rapidement. C'était assez étonnant d'ailleurs.
Est-ce que ça s'est fait juste au coup de cœur artistique ou aussi à chaque fois vous vous disiez bon, lui j'aime bien ou elle j'aime bien son univers et aussi il va peut-être m'apporter une communauté. Enfin, je vais être connu de son audience. Est-ce que vous regardiez ça aussi, la visibilité de la personne en plus du coup de cœur?
Je pense que en premier lieu, il y avait déjà un peu le truc de, on découvrait un peu faire des sessions avec d'autres artistes et du coup, dès qu'on nous proposait une session ou qu'on pouvait proposer une session, on le faisait parce qu'on était content juste de collaborer. Puis après, ça s'est fait. En vrai, ça s'est fait assez naturellement quoi. C'est les premières personnes qui nous ont contactés qui sont rentrées dedans et comme tout s'est bien passé, qu'on était content de tout, on a tout sorti quoi.
Ouais, mais après, évidemment, t'as toujours ce truc de quand tu fais un feat avec quelqu'un, tu partages l'audience. C'est-à-dire que toi, tu vas toucher des gens que tu touches pas d'habitude et lui, il va toucher des gens qui touchent pas d'habitude. Donc c'est toujours bénéfique. À partir du moment où la collaboration se passe bien, c'est cool.
Et justement, vous disiez que dans la pop, c'était quelque chose que vous faisiez pas forcément. Comment vous avez modifié en fait votre façon de travailler en faisant des collabs?
En fait, la façon de travailler, on l'a modifié avant parce qu'on on s'est mis à travailler comme on le fait dans le rap en mode beatmaker chanteur quoi. Alors qu'avant, on composait en live avec des instruments et tout. Et du coup, ça s'est fait super naturellement. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'on propose à quelqu'un de passer l'après-midi à notre studio 2 heures. On voyait si ça se passait bien, ce que ça donnait. Et ça, tu le vois assez vite en fait, même humainement. Est-ce que tu sens que ça va bien se passer ou pas quoi.
Ouais. Je me tourne vers nos experts, Ben et Flav, puisque vous êtes manager. Est-ce que le feat, c'est quelque chose qui rentre, pour le coup, dans une réflexion stratégique de développement de vos artistes?
Évidemment. Enfin, nous, on est des fervents défenseurs, justement, du feat. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est important. On incite tous nos artistes à y aller, à feater. Alors, après, que ce soit des gros feats ou des petits feats, tu le disais juste à l'instant, le but, c'est aussi de prendre les communautés d'un peu de l'autre artiste, clairement. Et c'est vrai que c'est important. Enfin, pour nous aujourd'hui, c'est difficile pour nous de concevoir un développement d'artiste sans feat. Voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on voit la chose.
Complètement. En plus, il y a un intérêt, effectivement, comme le disait Sam, de jouer sur les deux communautés, mais aussi en fait humainement en fait d'ouvrir et d'avoir une autre perception de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Enfin, moi je pense bleu et en fait peut-être que Ben il pense jaune et qu'en fait du coup tous les deux ça va faire vert et ça peut amener en fait des nouvelles façons de penser, de même réfléchir en fait même à sa musique. Enfin, tu vois, genre même sur les beatmakers, on a aussi des beatmakers en fait qu'on manage et en fait entre beatmakers on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait des collaborations parce que leurs manières de travailler sont complètement différentes. Ils ont des styles bien différents en plus aussi et donc y en a un il marche fort sur les kicks à chaque fois que t'entends, c'est un truc de ouf, et l'autre en mélodie il est un peu plus fort, vas-y viens on les fait collaborer quoi, par exemple.
Bolide, vous c'est un truc que vous avez ressenti justement dans votre métamorphose aussi artistique, vous avez exploré des terrains grâce aux collabs, vous avez essayé de façonner aussi votre identité grâce à vos collaborations?
Ouais, d'une certaine manière. Après, pour revenir sur ce que tu dis, c'est vrai, il y a ce truc, nous on bosse vachement à deux, on est tous les jours, on bosse ensemble sur nos morceaux et tout, et le fait de faire venir des gens à l'intérieur de ce truc là et tout d'un coup d'ouvrir des possibilités, ça nous fait avancer vachement, je pense, hein, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, carrément, même en dynamique de travail, tout d'un coup il y a des trucs qui se délogent et ça ouvre d'autres possibilités, même entre nous deux, quand il y a une personne en plus, ça change les choses. Ouais. Et puis,
on peut pas s'insulter de la même manière, les relations sont plus saines.
C'est triste.
Faut faire attention. Ouais.
Non, mais clairement, je pense que le premier avec qui on a beaucoup bossé, c'était Oscar, et Oscar, il est beaucoup plus musicien que nous on est un peu des musiciens autodidactes.
Pardon, c'est qui Oscar?
Oscar Hench, c'est un pote à nous qui vient de sortir un EP.
Et vous avez fait pas mal de feats avec lui, genre 4-5.
Ouais, on a fait beaucoup on a une dizaine de morceaux avec Oscar non sortis, je pense. Donc, enfin, pas forcément avec des voix, mais on travaille beaucoup ensemble parce que on est potes à la base. Et du coup, à la base, on faisait ça avec Oscar, comme on s'entendait bien de base. Et puis, au fin de mi-jour, on a commencé à rentrer d'autres personnes dans la boucle. Et ouais, comme tu dis, avec les beatmakers, c'est vachement probant, quoi.
Mm. Il y a un vrai truc.
On parlait, je crois que c'était toi Ben qui parlait de fitter peut-être avec des gens qui ont une communauté plus importante à un moment pour mettre aussi de la lumière sur toi, sur ton travail.
Bien sûr.
Quand on est artiste émergent, il y a potentiellement deux stratégies. Il y a essayer de choper des très très gros artistes, ou essayer peut-être de fitter avec des gens qui sont dans la même cour que toi, mais de les multiplier pour additionner tous les petits publics entre guillemets. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est plus pertinente qu'une autre?
Ça dépend en fait l'environnement de ton artiste. Par exemple, si on prend l'exemple de Daryl, pour nous, Daryl en fait il vient de Périgueux, donc petite ville du sud-ouest de la France. C'est un peu plus complexe de se dire ok, je vais avoir la possibilité de feat avec quelqu'un qui est un peu plus gros, parce que en fait dans son environnement en fait de toute façon c'est c'est compliqué de rencontrer ces gens-là. Après, quelqu'un comme FOMO, dont vous avez déjà entendu le travail dans cette émission, si en fait lui, son environnement, il est tellement chaud en fait sur Paris. Ça fait 10 ans qu'il fait du rap, il a rappé avec tout le monde. Donc en vrai, lui, on peut se permettre de se dire ok, on peut essayer d'aller chercher un gros feat en fait sur. Alors suivant après, c'est aussi comment définir la stratégie, etc. Mais c'est un peu plus facile avec ce type d'artiste en fait.
Dans ce cas-là, comment on s'y prend? Imaginons que voilà, moi je suis un artiste, je commence à avoir une petite fanbase de quelques milliers de personnes. Est-ce que ça a un sens d'aller démarcher un gros artiste que je ne connais pas forcément?
Déjà, tu trouves des bons managers. Une fois que t'as trouvé des bons managers, ouais non, blague à part, il va y avoir dans un premier temps le coup de cœur musical où tu vas pouvoir faire des échanges en direct. Si jamais l'artiste, voilà, ça matche artistiquement, bah ça va être beaucoup plus simple de pouvoir faire ça. Ensuite, si musicalement ça matche pas, ce qui peut arriver, peut-être par contre humainement ça va matcher. Dans ces cas-là, c'est vrai que d'avoir des gens qui peuvent faciliter sa rencontre, ça va t'aider. Donc après, je sais pas si ça répond à ta question.
Est-ce que c'est faisable même en France de dire, par exemple, voilà, je commence à être chaud, j'ai enchaîné des freestyles sur YouTube, etc., et je veux Fianso. Est-ce que ça a un sens d'aller essayer de démarcher Fianso pour l'avoir?
Bah ça dépend. Je veux dire, forcément, ça a du sens. Ça aura toujours du sens. Aujourd'hui, c'est des gens qui vendent, c'est des gens qui buzzent. Maintenant. Je pense que sur des gros feats comme ça, et c'est toujours le dilemme qu'on a avec Flav sur nos artistes, c'est que je pense qu'il faut pas y aller trop tôt non plus. Il y a des gros artistes, faut pas y aller trop tôt. Enfin, je sais pas si tu veux, compléter là-dessus, mais ça sert à rien d'y aller trop tôt, parce que pour le coup, c'est peut-être pas le moment, peut-être que t'as besoin justement que toi, ta fanbase, elle soit un peu plus grosse au départ. Donc après, il y a peut-être des paliers. Voilà, je sais pas si on peut parler de paliers, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais je pense qu'il y a des paliers de... Pour faire ça, maintenant, tu vois, on prend récemment, là, il y a une série qui a sorti Attic, enfin, tu vois, Attic, ça fait très longtemps qu'il fait du rap, Validé l'a propulsé. Et je pense qu'aujourd'hui, les feats qu'il a, il n'aurait pas pu les avoir il y a un an. Et il tombe au bon moment. Enfin, c'est aujourd'hui qu'il peut les avoir. Il y a un an, je suis pas sûr que ça aurait marché parce que personne le connaissait. Ça. Ouais. On le connaissait pas comme aujourd'hui, en fait. Donc, voilà, je pense qu'il y a des moments aussi où ça se sent. Tu te sens que tu peux y aller. Après, nous, quoi qu'il arrive, on y dit, faut y aller. On incite tout le monde à y aller, même si, après, si jamais ça se concrétise, peut-être qu'on va le faire, mais il va peut-être falloir attendre le bon moment pour le sortir ou le bon moment pour le faire. Enfin, je sais pas si c'est clair.
Ouais, tout à fait. Martin. Dans ce cas-là, est-ce que l'argent est une donnée à prendre en compte? Est-ce que on va parler après de l'argent concret, de comment on rémunère des futurings, mais là, si je veux un artiste qui a une plus grande notoriété, est-ce que la donnée argent est quelque chose, est un paramètre?
Ben du coup, enfin, je vais compléter ce que disait Ben parce que du coup, là, on parlait d'artistes quand en fait ça marche et que humainement on peut s'entendre ou que musicalement on peut s'entendre. Après, par exemple, ok, on va citer des noms. Je suis désolé, mais du coup, Tony Parker quand il feat avec Booba, ouais, c'est chaud en fait. Tu vois, genre il y a un vrai truc. Après, on sait que c'est une star absolue, hein, Tony Parker. Attention, grand respect au monsieur, mais
t'as jamais aimé Booba de toute façon.
Non, j'attends, je kiffe Booba. Mais
on est déjà dans des sources
direct.
Au bout de 10 minutes d'émission.
Direct. Mais du coup non, en fait ce que je veux dire par là c'est que c'est quoi les dessous de ce feat? J'en sais rien, tu vois, j'y étais pas, mais ce qui paraît en tout cas au premier abord, c'est vraiment genre c'est OK en fait, je te file un cachet de 10 000 balles et viens on feat ensemble en fait. Bon après pour Tony Parker, c'est tellement une star aux États-Unis que c'est peut-être même presque l'inverse qui s'est passé, mais ce que je veux dire par là c'est que il peut y avoir ce genre de feat. Maintenant OK, je vais prendre l'exemple, si t'es dans une grande maison de disques, je sais pas, imaginons t'es chez Sony, Sony a misé sur toi absolu, t'as besoin d'un feat. On va aller, du coup, les équipes Sony vont aller chercher un feat chez Sony, par exemple, parce que c'est plus simple. Voilà, t'es une jeune artiste, t'as envie de feater Rosalia. Ok, j'appelle Sony Espagne. Bonjour, j'ai envie de feater, etc. C'est un peu compliqué, mais ça peut se faire. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est qui? C'est comment? Et quel argent on met? Parce que c'est sûr, en fait, il y a des sphères où il faut payer, en fait, ton feat. C'est obligatoire, en fait.
Mais là, il parle d'artistes signés, pardon. Mais oui, c'est vrai que sur les artistes qui sont en développement, oui, effectivement, il y a des feats que t'auras uniquement avec un billet, clairement, on va pas se mentir, c'est évident. Et même s'il n'y a aucun coup de foudre musical ou humain, t'auras le feat parce que t'es capable de coffrer
15 000 balles.
Du pognon pendant commence, très longtemps, ouais. Tu vas sortir un gros billet. Maintenant, artistiquement, est-ce que c'est intéressant?
Ok. Bolide, sans parler d'argent pour le coup, mais est-ce que vous visez des gens qui ont une très très grosse notoriété? C'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit pour une démarche de développement de carrière?
Bah, si ça nous a traversé l'esprit, je pense que c'était uniquement si c'était des artistes qu'on aime vraiment beaucoup.
Ça c'est au début ça.
mais on est assez réaliste, ça fait un petit moment quand même qu'on fait de la musique. Je pense qu'on n'a jamais considéré l'option d'envoyer un message à un gros gros artiste pour lui proposer un feat. Enfin, j'ai réfléchi.
Bah, on a déjà envoyé des DM, mais ils ont jamais été ouverts. Tu
c'est
vois.
Ça. Ouais, Damso deux trois fois, tu vois, mais normal quoi. Non, c'est pas vrai. Non, j'essaie de réfléchir à qui on a. Non, à chaque fois, je pense que c'est des artistes qu'on aurait pu contacter qui sont peut-être un peu au-dessus de nous. Mais pas du tout dans une sphère complètement disproportionnée, je pense pas.
Non, on n'a jamais essayé d'appeler Angèle.
Enfin si, mais pour d'autres raisons. Ouais.
Vous allez, je crois qu'il y a peut-être dans les tuyaux un Boys and Girls volume 2, vu que de toute manière, il y a volume 1.
A priori, il y a un
après,
volume 1.
Dans le rap, il y a une règle. Hein, les volumes 1, il n'y a jamais de volume 2.
Ouais, mais du coup, on ne sait pas, on peut pas savoir.
Mais est-ce que pour un projet comme ça, vous avez peut-être commencé déjà à travailler, est-ce que vous vous êtes justement fixé des objectifs de se dire là on aimerait bien un tel, là, est-ce qu'il y a un plan derrière tout ça ou est-ce qu'encore c'est au feeling?
Il n'y a pas de plan, il y a des, peut-être des désirs, des fantasmes un peu, on se dit putain sur ce track parce qu'on a déjà commencé à bosser sur des morceaux, même si on ne sait pas exactement ce qu'ils vont devenir, on voit des gens dessus forcément, on se dit putain ça pourrait être vraiment cool, après pour l'instant c'est vraiment au stade de, embryonnaire, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir, donc, mais ouais après forcément il y a des morceaux, il y a des rappeurs qu'on aime beaucoup, qu'on kifferait voir dessus, mais faut pas rêver complètement quoi.
Vas-y dis-nous c'est qui.
Je te dirai après.
Ils ont le bras long, hein. ils peuvent vous avoir qui vous voulez.
J'en sais rien, mais peut-être en vrai.
C'est quoi pour vous les clés d'une collaboration réussie? C'est une vaste question.
C'est une vaste question, ouais. Je sais pas comment ça s'explique. Je pense déjà la base c'est de bien s'entendre, je pense quand même. Ouais. Même au-delà de la musique, nous on a des exemples de featuring qu'on a fait avec des gens. Musicalement, on fait des choses assez différentes. Genre James Baker par exemple, c'est un des mecs avec qui on a fité qui a un univers le plus différent.
Le morceau L'Astuce,
c'est exactement. Ça. Et on s'est rencontrés parce que Joe bossait avec lui sur son live et on s'est trop bien entendu, c'est devenu notre pote et du coup c'est devenu naturel de bosser ensemble et c'est devenu agréable. On l'a fait vraiment plus pour le kiff que pour se dire vas-y on va faire un track. Et du coup tout s'est fait ultra naturellement et je pense que ça c'est les meilleures conditions. Après,
ouais, c'est ça qui rend le truc cohérent aussi à la fin. Tu ressors pas avec un alien à trois têtes en guise de morceau, quoi. C'est ouais. Un truc qui ressemble à quelque chose. Et tous les L'Astuce, par exemple, ça marche grave bien, enfin, à mon goût. Et justement, c'est parce qu'on sait qu'on peut travailler ensemble, quoi.
Comment vous avez créé ce terreau commun pour faire ce morceau-là? C'est-à-dire que c'est à mi-chemin entre vos deux univers? C'est comment? C'est lui qui vous a emmené?
Bah, en plus, c'est particulier parce que sur ce morceau, il y a un feat dans la prod aussi parce qu'il y a Saint-Art qui est venu bosser avec nous sur le morceau. Donc, c'est un peu un ovni quand même. C'est pas un monstre à trois têtes, mais c'est un peu un ovni. On a pris la vibe de James, il a un truc un peu groovy, un peu funky, on se l'a un peu approprié. Enfin, je vais pas parler de ça parce que c'est plutôt ton terrain, mais en gros, on s'est dit qu'on pouvait amener son univers vers le nôtre et lui proposer quelque chose qui allait lui plaire sans que ce soit complètement ce qu'il a l'habitude de faire. Et il a trop aimé,
il a grave joué le jeu aussi.
Après, c'est quelqu'un qui joue le jeu à fond de manière générale. Ouais. Donc, après une bonne collab, franchement.
Ouais, si je peux te répondre plus sur les conditions de, la mise en condition, quoi. En général, par exemple, la session avec Ella, elle est assez représentative de comment on a bossé sur Boys and Girls. Elle est venue, on n'avait pas de prod particulière sous la main. Et on a discuté un peu musique, on a discuté un peu vie, on s'est rencontrés, quoi, aussi, tout simplement. Donc, on a bu un café. Et puis après, on a commencé à faire un peu une prod, elle a commencé à écrire aussi, puis au fur et à mesure, le morceau a avancé comme ça, un peu en back and forth. Et elle a une vibe super particulière, et là, donc du coup, c'était facile d'imaginer un truc autour de sa personne, donc c'était sûr que ça allait bien matcher derrière.
Ouais.
Et après, des fois, ça peut être, pour d'autres collabs, ça peut être tout simplement dérouler un peu les prods qui traînent et voir si ça parle à quelqu'un. La prod avec, le Burr avec Edge. Et Oscar, on avait le couplet d'Oscar, le couplet de Sam qui était posé parce qu'on a fait le morceau avec Oscar. C'était une session où on était tous ensemble.
Et il nous fallait un troisième couplet. Enfin, on voulait un troisième couplet.
Et on voulait un troisième couplet. Et quand on l'a envoyé à Edge, j'étais en mode ouais, le track il est lourd, vas-y, c'est parti.
Ouais, j'avoue, c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, je dirais que le truc parfait, c'est quand même quand la personne vient, il n'y a rien et on construit le truc tout entier ensemble. Et je me souviens avec Ella, par exemple, on a discuté ensemble de ce qu'on voulait que ça raconte. On a tout fait ensemble, quoi, du début à la fin, pendant que Joe faisait la prod sous nos yeux. Enfin, mais ça peut pas toujours se passer comme ça, quoi, c'est sûr.
Les managers, les clés d'un featuring réussi?
Déjà, je pense, enfin, je sais pas si Flav partage, mais je pense qu'un feat à distance, déjà, c'est pas la folie. C'est bien quand on fait des feats où effectivement il y a l'alchimie du studio du moment.
Ouais.
Après, je suis d'accord, je pense que c'est très bien aussi de créer le morceau de base où on part d'une page totalement blanche. parce que justement, bah déjà on en parlait tout à l'heure, mais humainement ça permet aussi de créer d'autres choses et ça permet d'avoir des idées, tu vois, des idées qui convergent bien en fait.
Ouais, puis c'est le plus confortable, comme ça le morceau il appartient à tout le monde aussi et tout le monde est content quoi.
C'est exactement ça, j'allais parler de le fait de s'approprier le morceau, je pense que là au moins tout le monde là. Sur ce que tu citais juste avant, tu vois, sur Edge, c'est très bien, parce que bon, Edge est un artiste incroyable, mais t'as des artistes qui peuvent aussi se sentir un peu, tu vois, la pièce rapportée, et c'est pas, ça peut des fois créer ce petit truc où, qui fait qu'on sent qu'il est pas vraiment dedans.
Ouais, et puis ça s'entend aussi, assez régulièrement, enfin, je par expérience d'avoir écouté plein de titres, tu le sens si en fait, enfin, tu le sens pas tout le temps parce qu'il y a des génies, mais parfois tu t'entends, tu te dis, ah ok, là c'est sûr, en fait, lui il a enregistré dans un autre studio, ils se sont jamais rencontrés, ils se sont envoyés 3 mails. En fait, c'est peut-être même leur manager qui se sont parlé entre eux, enfin, tu vois, genre, ça se capte un peu, tu vois. Après, il y a des histoires de feats de ouf, hein, genre, t'as des mecs qui ont fait des feats avec d'autres mecs d'autres langues, ils se comprenaient pas, du coup, ils ont dit des trucs qui étaient complètement à l'inverse l'un de l'autre, enfin, tu vois, ça peut partir dans tous les sens, hein, c'est trop bien, en vrai, c'est des belles histoires.
Est-ce que justement, alors là c'est peut-être pas totalement artistique comme question, mais est-ce que notamment dans le rap, quand on fait un feat, on se pose la question de la place du couplet de un tel et un tel pour gérer les égos ? Est-ce que c'est des questions qui rentrent en ligne de compte ?
Nous on a un principe de base quand on demande quand un de nos artistes part sur un feat, on a 3 règles d'or. La première c'est qu'il faut toujours commencer le feat. Toujours. Il faut toujours donner son nom. Faut toujours placer son blaze à un moment donné dans le feat et faut toujours avoir une punch qu'on va retenir. Ça veut dire il y a une punch qui va mettre tout le monde d'accord. Donc ouais. La position du feat, elle est simple. Si t'es invité, tu commences, tu dis ton nom, tu sors la punch qui met tout le monde d'accord. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Ils se mettent où ils veulent. C'est pas nos problèmes.
Après, je rajouterais qu'il faut situer tuer ton adversaire.
Évidemment. Enfin, ça, je l'ai pas dit parce que ça me paraît évident. Si tu vas sur un feat pour... Non, mais si tu vas pour être mauvais, n'y va pas. Enfin, à un moment donné...
Oui, effectivement, mais c'est intéressant du coup parce que l'idée de collaboration, là, il y a aussi propre au rap et à cet esprit de compétition, l'idée de surclasser aussi un peu. Du coup.
De ouf. Mais même pas en négocier en fait.
Évidemment, le but c'est à un moment donné aussi de t'es invité sur un feat. Le but c'est pas d'y aller en te disant je vais. Enfin, je pense que enfin c'est dans le propre de l'homme en fait de toujours être en compétition. Enfin, alors à l'école on est déjà en compète, tu vois. Donc le but c'est d'être en compétition. C'est d'inviter sur un feed. C'est pas pour y aller. Enfin, tu vas pas pour boire l'eau des pattes, quoi. Tu vas pour allumer l'autre. Donc effectivement, même si c'est une super alchimie, on mange tous ces chocobons, on est content. À un moment donné. Le but quand même c'est d'y aller, donc putain. Ouais, tu passes en premier.
On est des bisounours.
Alors voilà, moi je veux entendre la vie.
Mais non,
comment vous vous situez par rapport à ça justement?
Ah, non, on a une super excuse, c'est qu'on fait pas vraiment du rap, du coup on peut faire du duo.
Ça n'a rien à voir, les gars.
Viens, on chante la même partie ensemble, on est bien,
on
se tient la main.
On n'a pas du tout cette approche là. Après, je la comprends et je trouve ça cool, mais pas du tout. Nous, on est des communistes gentils, si tu veux passer en premier, vas-y, on lui tient la porte.
Après, il y a quand même un petit effet un peu similaire de on a envie de s'enjailler mutuellement au minimum dans cet aspect de la compétition aussi. Donc c'est sûr, tu rise up un peu quand il y a quelqu'un devant toi, tu vois. Mais...
Après, plus sérieusement, c'est des questions qu'on aborde toujours, évidemment, la place. Fin, au moins à un moment donné, on se pose la question de est-ce que c'est logique d'être de faire passer lui en premier ou en deuxième, typiquement sur le track qui sort, le clip qui sort demain avec Edge et Oscar. Vu qu'on est 3 en plus, on a pas mal réfléchi et finalement on s'est dit que le mieux c'était de faire ça comme ça.
Mais du coup, t'es où sur le
clip? Je suis au milieu.
Mais après, la différence aussi, on le disait juste avant, c'est que là c'est toi qui invites.
Ouais.
Donc c'est différent. Nous on parlait dans le cas où on est invité.
Je comprends. Après, nous pour le coup, c'était aussi musicalement, c'est. Le premier couplet c'est genre du R&B pur et c'est chanté, c'est doux, et le on voulait que le troisième couplet soit plus bref, c'était, ça avait du sens au niveau de la musique. Après je pense que tout se discute. Ouais,
mais c'est quelque chose que vous discutez?
Ça se discute pas forcément avec les gens avec qui on fait les morceaux, mais nous on en discute. Ouais, on en discute vu que c'est nos morceaux. Quand c'est nos morceaux, on en discute forcément. Ouais.
Okay. Après, il y a un vrai truc quand t'as la chance de faire le feat en studio. Il y a aussi des choses qui se passent en studio. Enfin, tu le vois en fait entre les artistes. Celui qui est le plus chaud, genre, il est là, il a déjà fini son texte. Il est, tu sais, genre, tu le sens en fait. Vas-y, va en cabine, frère. Tu vois, genre, fais ton truc, tu vois. Et en vrai, déjà de ça, tu sais comment en fait l'énergie du morceau va prendre, parce que le premier qui pose en règle générale, déjà, il t'amène une énergie complète sur une idée d'un morceau. Et du coup, en fait, de lui, en fait, va découler la suite. Peut-être que tu vas le changer de place au fur et à mesure. mais en tout cas c'est une première mmh. énergie qui peut donner en fait une idée du morceau final quoi.
Ouais, et puis peut-être qu'il va t'apporter la top line que t'avais pas, qui va sublimer ton couplet. Après il y a les choses aussi qui se font naturellement, tu le disais, tu vois, effectivement si ton morceau doit commencer par quelqu'un qui chante, bah tu le mets en premier, c'est évident. Enfin après il y a aussi des évidences,
mais faut quand même tuer
mais
son...
quoi qu'il arrive faut dégommer l'autre quoi qu'il arrive.
Bon, maintenant que l'aspect un peu artistique d'une certaine manière est géré, il y a toute la dimension business et contrat maintenant à prendre en compte dans le cadre des featuring. Alors là, je m'adresse.
Ça me regarde, ça me jette des regards noirs. Ça me jette des regards de ça. Attends des réponses.
J'ai une question très simple. Est-ce qu'on rémunère les featuring en général dans le rap français?
Oui.
Comment ça se passe et comment ça s'organise tout ça?
Après, ça se passe intelligemment.
Ouais, ça dépend de la notoriété de chaque artiste, mais en règle générale, on va dire qu'un feat, c'est un cachet. Voilà, c'est un cachet d'intermittence. Comme ça, au moins, c'est simple, c'est réglo. Tu viens en studio, on te paye ton cachet.
Donc, c'est quoi? C'est un contrat de travail qui est établi à un moment.
Okay. Ouais, 12 heures et tu fais, après, le taux, ça dépend de l'artiste, mais en règle générale, on essaye de payer pas trop, trop cher parce que voilà, c'est un budget. Et après, suivant, l'artiste, c'est ton pote depuis toujours, tu le payes pas parce que c'est ton pote. Si humainement ça s'est super bien passé et tu lui dis écoute, je suis en dev, j'ai pas d'oseille, et du coup tu payes pas non plus. Et après yes. Et après il y a aussi il peut aussi y avoir, du coup là on parle des comme on disait tout à l'heure, en fait certains feats où en fait on va se décider, ok, combien je te paye, enfin voilà, tu passes par mon manager, moi je veux pas savoir, et en fait après ça se règle aussi souvent comme ça, de manager à manager ou de maison de disque à maison de disque.
Bolide.
Nous on a une règle d'or, on paye personne et
bon, c'est une belle règle.
Yes. Non, c'est exactement ce que tu dis, ça dépend complètement de
du profil, quoi.
Du profil, de la relation
de l'équipe aussi parfois.
Ouais, de l'équipe, si on bosse avec des gens qui sont signés, qui ont une grosse machine derrière ou pas. Après nous on est une toute petite structure, on est indé, c'est notre label, donc on
félicitations les gars.
Ah, c'est bien les gars. Ouais, ben
c'est une asso, hein, on s'emballe pas.
À but non lucratif.
Tout à fait. But c'est de pas faire de l'argent, voilà, le moins possible.
Félicitations les gars.
Non, voilà, après nous on a surtout fait des feats comme on disait qui se sont faits assez naturellement avec des gens avec qui on avait envie de travailler, qui avaient envie de travailler avec nous. Donc on s'est arrangé avec les gens au cas par cas. Après il y a forcément des histoires de répartition, on s'arrange, ça je crois que tu en parlais après.
Ouais, on va en parler après.
Il y a aussi la possibilité de donner des points sur les royalties. Enfin, il y a des arrangements, ça dépend vraiment de l'interlocuteur. On n'a pas de règles de base.
Ok, et quand, imaginons, là, on parlait de cachet d'intermittent, dans ce cas-là, c'est vous qui gérez ça avec les gens que vous invitez?
Tout à fait.
Ok, ouais. Vous faites vous-même les contrats et tout
Voilà, avec notre manager, bien sûr.
D'accord.
Et les managers sont une super arme, d'ailleurs, pour ne pas avoir des conversations un peu qui peuvent être un peu désagréables avec des gens... Qui tu travailles avec, qui tes potes.
Ouais,
merci les gars.
Ça peut être un peu compliqué.
Heureusement que vous êtes là.
On le sait très bien qu'on est à un moment donné. Hop, va voir avec mon manager, il va s'en occuper.
Ouais, c'est ça.
Un mec qui arrive, nous avons un mail, on sait pas qui c'est. C'est très bien. On l'a tous vécu ça.
Bon, alors, au-delà de la rémunération en temps de travail pendant l'enregistrement du feat, comment ça se passe pour. On a évoqué le mot les royalties des morceaux. Donc les royalties, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'argent que va générer la vente du morceau, les streams, etc. Comment ça se passe pour ça? Est-ce qu'on répartit ce que le morceau va générer?
En fait, c'est assez simple. Ça dépend ce que t'as fait en fait. Voilà, c'est toujours pareil.
Si, excuse-moi. Quand Flav dit c'est simple, c'est jamais simple.
Ouais. Ok. Pardon. Imaginons l'artiste. On est trois artistes. Du coup, on fait 33% chacun, en fait. Enfin, je parle
33% du revenu artiste qui va être généré. Okay.
Voilà, de la partie ici à trois rappeurs, par exemple. On va prendre l'exemple du morceau de Bolide avec Oscar et Edge. Ils sont trois, j'enlève le refrain pour faire simple. Ils ont fait un couplet chacun. Ok, 33% chacun, en fait.
33% de quoi?
Alors, de leur partie auteur à la SACEM, qui est du coup 50% du morceau.
D'accord.
Voilà. Après, suivant les artistes, ça dépend. Il y a des artistes qui fonctionnent comme ça. S'ils ont une plus grosse notoriété, ils vont dire par exemple, ok, moi je prends ma partie auteur, je prends mes 33% des 100% des 50%. C'est là où c'était effectivement compliqué. Merci Ben. Voilà. Et du coup, en fait, si l'artiste il est un peu plus conséquent, il a une plus grosse notoriété, il est capable de dire, ok, je veux aussi 5% sur la partie compo, par exemple.
Ok.
Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est que si jamais, typiquement, j'en sais rien, c'est l'artiste qu'on invite qui a top-liné le refrain, par exemple, Là, par exemple, on peut considérer que la top line étant très importante, ça rentre dans des points de compo. Typiquement, ça nous est déjà arrivé.
Ok. Mais juste pour être sûr de bien comprendre, il y a d'un côté les royalties, d'un autre côté les points SACEM, ou c'est la même chose?
Non.
C'est deux choses différentes. Hein.
On a fait un petit. On a embrouillé les.
Ouais,
les,
c'est un peu compliqué.
Je vous ai dit qu'on comprend rien.
Non, on est d'accord qu'il y a les revenus d'un côté que génère le morceau, et d'un autre côté les revenus d'édition. Donc là, c'est quand on est diffusé en radio ou sur scène. Et alors là, dans les deux cas, on prend un pourcentage.
Non.
Ah, il y a un oui et non.
A priori, c'est.
On va pas travailler avec Bolide.
Non, mais là, ce dont toi tu parlais juste avant, c'est les droits d'auteur. Et après, t'as les royalties, du coup, c'est ce que génère le morceau, les ventes, etc. Et ça, a priori, la plupart du temps, c'est la personne qui produit,
qui prend l'oseille.
Ouais. Et moi, du coup, ce que je disais, c'est une des possibilités si tu veux rémunérer mieux ton feat, c'est tu lui dis pas, je te mets un cachet parce que j'ai pas les sous, mais je te donne. Je sais pas moi, 5 points sur le track, quoi.
D'accord.
Sur les royalties, donc sur ce que le morceau va générer, quoi.
Ok.
Je dis pas de conneries là. Hein.
Ouais, c'est ça exactement. Après, du coup, enfin, suivant comment t'es en termes de justement parler de notoriété par exemple, c'est là où en fait tout peut se négocier. C'est-à-dire que tu peux être producteur de ton propre titre. On a un de nos artistes par exemple, Daryl, qui feat avec Booba. Si Booba nous dit je prends 50% de ta production, je lui dis oui en fait. Tu vois, genre je me pose pas de questions en fait, ce que ça va m'apporter. Enfin, tu vois, genre en vrai, il y a pas de problème en fait. C'est là où ça dépend effectivement. Qui t'es, comment t'es et où t'es dans ta carrière en fait.
Et on parlait tout à l'heure, je te disais si c'est trop tôt, c'est aussi pour ça.
Ouais.
Tu vois, quand je te disais c'est peut-être trop tôt aussi pour lancer ce feat ou quoi, il y a aussi ça à prendre en compte.
Dans le rapport de négociation après avec le gros artiste.
Exactement.
Ok. D'ailleurs, ça me fait penser que par rapport à ces feats-là avec des très gros artistes, il faut être capable d'enchaîner aussi après. Il y a cette question-là de comment t'enchaînes. Il y a l'exemple un peu emblématique de par exemple Capon et Nino qui ont fait un très gros hit. C'est compliqué après d'enchaîner en solo et de même drainer toute l'audience que t'as pu générer sur ton feat.
Bah écoute, on va faire simple. Je pense qu'on va voir après Bande Organisée. On va voir qui restera et qui restera pas. En fait, c'est simple. Je pense que c'est le meilleur exemple. Il y a aujourd'hui, c'est le son le plus streamé. C'est le son qui génère le plus d'oseille aujourd'hui. Je pense que la moitié de ces rappeurs-là, demain, vont avoir beaucoup de mal en solo. Enfin, après, je leur souhaite pas, hein, mais tu vois, c'est un exemple, effectivement.
Oui, ils sont beaucoup dessus, quand même.
Ils sont beaucoup.
Ils sont 27, frère. À un moment.
Non, mais maintenant, tu vois, on parlait de répartition. C'est très malin, la manière dont ça a été réparti. Je parle vraiment du morceau, de ce morceau-là. Ils sont quoi? Ils sont 7 dessus? 7, 8?
8, je crois.
8. Ouais, ils sont 8.
30.
C'est enfin bon bref, ils sont très nombreux, mais tu vois, c'est très malin la manière dont étaient distribués les points justement dont on disait. Tout le monde a pris la même part, tout le monde est producteur, enfin c'est incroyable.
Ah oui, ils ont fait comme ça.
Tout le monde est producteur. Je trouve ça incroyable en fait dans la démarche. Jules, tu vois, c'est un patron pour ça. C'est franchement, c'est incroyable de dire ça. En même temps, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux pour la moitié, parce que est-ce que derrière ils vont pouvoir faire carrière, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, je leur souhaite, attention, hein, je leur souhaite, mais tu vois, dans la distribution, ça, c'est très malin. C'est très malin de l'avoir joué comme ça, et effectivement, on n'en retiendra pas. Donc, c'est très dur après de. C'est pas parce que t'as un gros feat que ça y est, t'as percé. Comme c'est pas parce que t'as signé que t'as percé, comme parce que t'as.
Et après, je rajouterais juste que, enfin, c'est comme tout, c'est faut être prêt, en fait. Si tu fais ton morceau avec. Ok, on va prendre Jules, tu fais un feat avec Jules. C'est pas parce que t'as featé Jules qu'en fait, tu le sors tu l'as fait le lundi, tu sors pas le mardi le morceau. Intelligent en fait, tu prépares 3-4 morceaux, tu sors le feat, et après tu te fais un flux tendu de genre ok, toutes les deux semaines, un mois, je ressors un titre comme ça, ok, les gens ils t'ont vu, le feat avec Jules, et ensuite après on va voir, tu vois, genre Poupie là vient de sortir un feat avec Jules, j'ai hâte de voir si elle sort un morceau solo derrière. Je suis quasiment sûr et certain que dans 3 semaines, un mois,
bah elle a sorti son EP, elle sort son EP vendredi, ou elle l'a sorti, je crois. C'est un
truc. Bah voilà, bah merci, tu m'as donné la réponse. Mais voilà, ouais, du coup, ouais, tu vois, genre, trop intelligent en fait. Tu fais ton feat et derrière, après, t'arrives déjà avec quelque chose.
Je suis sûr qu'elle a un album qui est quasiment prêt derrière.
C'est plus, ouais, comme tu dis, c'est une sorte d'ouverture. T'as une petite fenêtre de focus pendant un certain laps de temps et faut en profiter.
Puis maintenant,
quoi.
Ça va vite. Hein. Ouais, donc ton laps de temps, il faut être vraiment prêt.
Si c'est juste faire le feat pour le faire,
c'est cool.
Ne le fais pas.
Bon. Au-delà de la rémunération, j'ai une question peut-être naïve, mais sur les droits de propriété du morceau, comment ça se passe quand on est en collab?
Bah, du coup, là, on revient à la répartition de tout à l'heure. T'as les royalties d'un côté, donc là, ça dépend de ce qui a été mis d'accord avec les artistes à l'issue de la session, quoi. Et d'un autre côté, il y a
les droits d'auteur, enfin, les droits SACEM, quoi.
Ouais. D'accord, donc en fait, oui, d'accord, ça rentre dans ce cadre-là.
Bah, droits d'auteur, c'est propriété intellectuelle.
D'accord.
Quoi. C'est ce qui. Le texte t'appartient ou la compo t'appartient.
D'accord. Quoi. Ok. Pour les clips. Quand souvent on fait une collab, il est possible qu'on la clip, il est même souvent pas mal de conseiller de le clipper. Là aussi, est-ce qu'il y a une rémunération et est-ce que si le clip génère de l'argent, on envisage une répartition des bénéfices?
Un clip qui génère de l'argent, moi j'ai jamais fait encore, mais
on en parlera dans les questions suivantes. Non,
on rémunère en sandwich généralement. Ouais. Ça se passe bien.
Tu veux une clope? Nickel.
Légalement, c'est toujours pareil. Ça devrait être un cachet par membre qui vient sur le tournage et tout. Après, évidemment, ça se fait. Je pense pas dans les artistes émergents, ils font pas ça.
Ouais, c'est ça. Dans un monde idéal où l'argent coule à flot, ouais.
Si t'es signé dans une major, tu vas donner un cachet à la personne, en fait. Parce que de toute façon, elle est venue travailler. Donc, de toute façon, il lui faut un contrat de travail. Donc, faut la déclarer, etc. Après. Enfin, on en revient exactement à au même titre que la chanson. Si demain tu fais déplacer Jules, il va sûrement te demander plus de pourcentage.
Je suis même pas sûr. Lui, je suis même pas
c'est
sûr.
C'est mon mauvais exemple, Jules.
Ouais, un autre, n'importe lequel autre, du coup. Et peut-être qu'il va peut-être demander de l'argent, en fait, un pourcentage sur les revenus. Après, si ton clip il passe en télé, bah du coup, ça te génère encore une fois encore plus d'argent, etc., etc. Donc
après sur pardon.
Non, vas-y, j'ai fini.
Je suis désolé. Après, sur du dev, ça se fait en bonne intelligence. Généralement, le clip, déjà, tu clips, enfin, tu t'essayes de clipper le morceau qui te semble le plus clippable, etc. Normal. Et ensuite, ça se fait généralement en bonne intelligence. Enfin, je pense pas que vous ayez eu des problèmes aujourd'hui avec des mecs qui vous ont dit, je vais pas clipper si je te prends pas de sous.
Non, bien sûr. Bien sûr.
Donc, c'est toujours, c'est toujours fluide.
Ouais, c'est quand même tellement cool de pouvoir clipper un morceau, tu craches pas dessus. Après ça dépend. Après, c'est l'industrie du clip, c'est comme ça, en fait. Soit tu passes par des boîtes de prod et tu payes tout le monde et ça coûte vite 10 000 euros, soit tu te débrouilles et ça coûte un peu moins cher et du coup tu payes pas forcément le feat, quoi.
Le seul vrai problème des clips en indé, c'est de respecter les délais et d'avoir tout le monde sur le clip. C'est la seule galère, c'est de faire en sorte que tout le monde soit dispo au bon moment. C'est vraiment les seuls inconvénients du dev, en fait.
Bon, on approche déjà de la fin de l'épisode, mais c'était une très belle conversation. Merci à tous les quatre.
Merci à vous.
Tous ces tips que vous nous avez délivrés. On se quitte évidemment pas comme ça, puisqu'on va laisser la place au live. Et c'est Bolide qui va ne pas être rémunéré, mais qui va quand même nous interpréter. Pardon, je suis désolé, je te l'apprends comme ça. Qui va nous interpréter Transatlantique.
C'est complètement pas le titre de ce morceau, parce que ce morceau n'est pas sorti.
D'accord.
C'est le titre de la maquette. D'accord. Voilà, c'est un morceau qui n'a jamais été interprété, d'ailleurs.
D'accord.
C'est un inédit.
C'est peut-être d'ailleurs qu'il sortira jamais.
C'est magnifique.
C'est magnifique. C'est incroyable.
On est honoré, du coup.
À noter que quand il sortira, il y aura un peu plus d'autotune qu'aujourd'hui, mais bon.
Ok.
Du coup, comme on est là, on est en feat sur le morceau.
Ouais, vous avez le droit d'accord. de faire des blagues dessus.
Alors, le live sera filmé. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur les réseaux sociaux de Groover et sur YouTube. Merci d'ailleurs à Groover pour la confiance. Merci Marguerite pour l'organisation. Merci au Poste Général de nous accueillir,
merci
de nous
tous.
Soutenir et de nous diffuser. Merci enfin aux réalisateurs de la vidéo du live, Alsen et Vadim. Leur boîte s'appelle Deux Mecs en Shorts. Ils font du super taf. N'hésitez pas à aller regarder ça sur les réseaux.
Pourtant, ils ont des pantalons.
Et malheureusement, ils ont des pantalons, c'est ça. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Groover Tips. D'ici là, faites des feats, payez les gens ou débrouillez-vous.
Croyez en vous,
surtout, c'est le plus important. Ciao.
Bolide, boys. Bébé, je vais t'aimer trop fort. Et tu le sais, tu vis pour l'électrochoc. Pas de succès. Bébé, je vais t'aimer trop fort. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, je sens plus la douleur. Plus la douleur. J'ai oublié le goût des larmes, le goût de l'eau, de pluie, du cœur, l'odeur argentée de tes armes, la pointe aiguisée de la peur. Je l'ai troqué contre ta bouche, j'en ai trop fait. J'aurais tout donné, tout pardonné, même tes mensonges sont plus doux quand je les touche. Dis-moi encore que tu m'aimes plus que tous les autres. Dis-le plus fort, dis-le comme si c'était la première fois et que tu le pensais encore. Avant toi, y avait pas d'avant et y aura pas d'après. Je sais que tu sais que c'est pas vrai, non. Mais ça va trop vite. On s'arrêtera quand le réservoir sera vide. Plus rien à tirer, plus rien à se dire. C'est que tu m'as tiré tellement. L'arme est dans ta main, t'as plus qu'à tirer maintenant. Hey. Bébé, je vais t'aimer trop fort. Et tu le sais, tu vis pour l'électrochoc. Pas de succès. Bébé, je vais t'aimer trop fort. Qu'est-ce que tu fais? toute façon je sens plus la douleur, plus la douleur. Bébé je vais t'aimer trop fort. Et tu le sais, tu vis pour l'électrochoc. Pas de succès. Bébé je vais t'aimer trop fort. Qu'est-ce tu fais? De toute façon, je sens plus la douleur, plus la douleur.
Hey.
Merci.
Eh bien voilà, merci beaucoup.
C'était une émission du Poste Général.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.